Alors, le Maroc, il y aurait beaucoup de choses à dire sur le Maroc. Tout dépend bien sûr de la place où on se place pour aborder le sujet qui touche le Maroc. L'approche qu'on peut faire du Maroc. Mais avant d'aborder le sujet, je voudrais dire d'abord que je suis là à titre personnel, même si j'ai une casquette de défenseur des droits de l'homme. Les amis qui m'ont invité me connaissent plutôt en tant que secrétaire général de l'Association de défense des droits de l'homme au Maroc, l'ASDOM, qui est une association donc de défense des droits de l'homme, comme son nom l'indique, qui a été créée en 1984. Mais par contre, je ne vais pas parler de cette association, ni de mon rôle dans cette association en tant que défenseur des droits de l'homme au Maroc. Je suis là pour parler, comme Marc l'a dit, du mouvement 20 février au Maroc. Parce que justement, et naturellement, mon association, avec d'autres associations et d'autres organisations, que ce soit politiques, syndicales ou associatives, ont apporté dès le début du mouvement leur soutien et leur appui à ce mouvement qui s'est développé au Maroc depuis le 20 février, à l'instar d'autres mouvements qui ont embrasé la région. Et je commence par mettre quelques guillemets, parce que dans le sujet, c'est la question: est-ce que le Maroc connaît son printemps arabe? Ah, c'était ça la question à laquelle je dois répondre ou tenter de répondre. Alors d'abord quelques guillemets pour éclaircir les mots, parce que les mots ont leur signification, les mots ont leur importance. Dans le titre, il y a un terme, il y a un mot qui me gêne un peu, c'est le terme arabe. C'est pas parce que je ne parle pas l'arabe ou je ne suis pas arabe. D'ailleurs, je ne suis pas. Alors, pour ne pas froisser les uns et les autres, moi je préfère le terme l'Afrique du Nord au terme Maghreb. Je préfère le terme Moyen-Orient au terme monde arabe. C'est vrai que médiatiquement, quand on entend le monde arabe, on se comprend. Mais en disant cela, on fait du tort à plusieurs, on va dire même la majorité de la population qui habite ces régions, notamment le nord, l'Afrique du Nord, qui sont les Berbères et les Amazighs. Alors pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que justement dans les revendications du mouvement du 20 février, ça, je reviendrai là-dessus tout à l'heure, il y a la revendication de l'amazighité. Donc voilà la première parenthèse. J'ai rien contre la terminologie monde arabe, mais juste pour être au clair et aller à l'essentiel. Et puis donc, j'en viens à l'approche de cette thématique d'aujourd'hui, qui est donc le mouvement 20 février au Maroc, qui va donc nous amener forcément à parler du Maroc, en général. Alors il y a deux approches, il y a deux discours. Il y a la première approche qui consiste à dire que le Maroc est un pays démocratique, qui a une constitution depuis 1962. On est à la cinquième ou la sixième réforme. qu'on a un parlement avec deux chambres, qu'on a des élections, qu'on a une multitude de partis politiques, donc un multipartisme affiché à la face du monde, et puis qu'on a aussi Marrakech, Ouarzazate, Zagora, etc., etc. Alors, je vais vous raconter une petite histoire qui m'est arrivée récemment, toujours dans la première approche, c'est-à-dire ce Maroc-là, qu'on essaie de vendre à l'extérieur. J'étais à la porte de Versailles, où se tient, où s'est tenu plutôt, le SMAP, c'est-à-dire un salon de l'immobilier au Maroc, où on essaie de vendre donc cette image du Maroc, du tourisme, l'immobilier, les riades à Marrakech, Ouarzazate, etc. Alors on était dans le cadre du mouvement février, mais pour débattre avec les gens, avec les exposants, et dire aux visiteurs, il n'y a pas que ce Maroc-là, faites attention. Et d'ailleurs, on est tombé sur un Américain d'origine marocaine qui a investi au Maroc et qui a été volé, arnaqué, et il était là avec son drapeau pour dire aux gens, attention où vous mettez les pieds, parce que ce sont des... Bon, nous, on n'était pas là pour saboter, parce qu'il y a eu une conférence qui allait être donnée par le ministre de la Communication, ministre porte-parole du gouvernement, Khalid Nasseri, et avec l'ambassadeur du Maroc en France, Mustapha Sey. On était justement pour assister à la conférence et débattre avec les gens, et bien sûr avec nos t-shirts et notre badge Mouvement 20 février, pour dire au présent notre avis et notre point de vue. Et bon, les choses sont mal tournées. Donc, déjà, le ministre n'était pas là, l'ambassadeur non plus, mais bon, peu importe. Et donc, j'ai eu l'occasion de débattre avec un exposant en particulier. Il y avait beaucoup de monde autour de nous qui ont assisté à la discussion. Et donc, cet exposant me disait que ce que vous faites là, c'est pas bien, vous faites beaucoup de tort aux Marocains. Nous, on est là pour aider les Marocains, on leur apporte de l'aide, etc. On investit là-bas, vous allez priver des Marocains d'emploi, etc., 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 etc. Alors, ma réponse était simple. J'ai dit d'accord, monsieur, donc je veux bien savoir. D'abord, les Marocains dont je parle, moi, n'ont pas besoin de cette aide, parce que je sais que ce que vous faites ne profite pas au peuple marocain, mais profite à quelques-uns, et profite surtout à vous, parce que vous avez délaissé la France pour aller investir au Maroc, parce qu'il y a la main-d'œuvre pas chère. Vous faites travailler des enfants. Là, vous avez vu les panneaux que nos amis de l'association ont affichés. Travailler des enfants sans déclaration, sans tout ça. Il me dit non, moi je déclare mes employés et même les bonnes, elle n'a même pas utilisé le terme d'employés de maison, les bonnes, je leur donne 2500 dirhams par mois. 2500 dirhams par mois, c'est l'équivalent de 250 euros, c'est rien, sauf que par rapport à un salaire marocain, 2500 dirhams, c'est beaucoup. Moi, je lui dis, chiche, devant tout le monde, j'ai pris tout le monde en témoin, chiche, je suis enseignant ici, je touche 2200 euros, je suis prêt à laisser ce boulot, et vous me sortez un contrat, tout de suite, je le signe, et je deviens une bonne pour vous, au Maroc. Alors là, il dit, je déclare mes employés à la CNS. La CNS, c'est l'équivalent de la sécurité sociale. Alors, je déclare, ça veut dire que là-bas, l'employeur a le droit soit de déclarer, soit de ne pas déclarer. C'est pas comme ici, la sécurité sociale, c'est un droit. Quand vous avez un boulot, enfin un travail, vous êtes assuré. Eh bien, là-bas, non. L'employeur a le droit ou pas de vous inscrire à la sécurité sociale. Et donc, ça devient un luxe d'avoir... Bon, je ferme donc... Alors ça, c'est la première, donc ça, c'est la première approche, c'est le premier Maroc qu'on essaie de vendre ici, à l'étranger, le Maroc des Riyads, etc., etc. Et puis la deuxième approche. La deuxième approche, et donc dans celle dont je me réclame, c'est que au Maroc, certes qu'on a quelques espaces de liberté. Quelques espaces de liberté. J'insiste sur les mots. Et j'ai pas fini. Ces espaces de liberté ont été arrachés. Arrachés de haute lutte par les militants marocains. Les militants démocrates. Et ça date pas d'aujourd'hui. Ces quelques espaces de liberté, et là je vais revenir sur un aperçu historique pour comprendre en fait la naissance de ce mouvement 20 février. Parce que je n'ai pas encore commencé à parler du mouvement 20 février, parce que ce n'est pas né le 20 février en fait. Ce n'est pas né d'un clic sur Facebook. C'est très réducteur quand on dit le mouvement, le printemps arabe, ce sont des jeunes de Facebook. C'est faux. Facebook n'a jamais été l'élément déterminant dans ces mouvements dans la région que j'appelle l'Afrique du Nord ou le Moyen-Orient. C'est un facteur qui a aidé, parce que c'est un facteur de communication, comme tous les autres moyens de communication. C'est tout. Ceux qui font le mouvement, ce sont les populations, ce sont les souches, et ce sont le peuple qui fait son mouvement. Donc cette deuxième approche consiste à dire que nous avons arraché quelques espaces de liberté, depuis même Hassan II. Ça ne date pas de Mohamed VI, l'actuel roi. Depuis même Hassan II, vers la fin de sa vie, et là, donc, je fais un peu un aperçu historique pour comprendre un peu l'essence de ces mouvements, parce qu'il n'y a pas que le mouvement 20 février. Il y a eu beaucoup de mouvements qui ont préparé, on va dire, l'avènement de ce mouvement 20 février. Vers la fin de la vie d'Hassan II, l'homme était malade. Il savait qu'il était malade. Juste avant, il y avait la chute du mur de Berlin. Parce que pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a un étendard qu'il agitait à chaque fois pour réprimer en fait plus les militants marocains, c'était les communistes, l'ennemi de l'extérieur et tout ce qui va avec. Depuis la chute du mur de Berlin, Il n'y a plus cette raison. Et avec la pression aussi exercée par ses amis occidentaux sur lui, il fallait lâcher un peu de l'Est. Il fallait qu'il lâche du l'Est. Sinon, il fallait s'attendre à ce que le peuple se révolte comme ça a été le cas en 58 au Rif, en 65 à Casablanca, en 81 à Casablanca aussi, et ainsi de suite. Donc, Hassan II, se sachant malade, et pour préparer la relève, parce que son fils, à l'époque, prince héritier Mohamed VI, n'était pas prêt politiquement à reprendre la dynastie, enfin, à reprendre le règne. Il était bien conseillé, Hassan II. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va commencer par libérer d'abord les prisonniers politiques. Pas tous, mais la majorité. La majorité qui se comptait sur le rang, on va dire, des marxistes, léninistes, la gauche radicale des années 60-70. Il va permettre le retour des exilés politiques. Et puis, il va créer un conseil consultatif des droits de l'homme. Le Conseil consultatif des droits de l'homme, première version, parce qu'il y a trois versions pour le Conseil consultatif des droits de l'homme. Tout ça pour montrer à la face du monde que le Maroc est en mouvement, le Maroc bouge et le Maroc devient un État démocratique. Sauf que dans cette entreprise, il va bien sûr se baser sur qui pour vendre cette marchandise, on va dire, entre guillemets. Eh bien, sur les ennemis de l'intérieur, ou ce qu'on appelait avant les ennemis de l'extérieur, c'est-à-dire les prisonniers politiques qu'il a sortis de prison, lui-même. Et donc, au CCDH, il va appeler qui ? Il va appeler les anciens prisonniers politiques. Il y en a un même qui a présidé l'IER, l'instance Équité et Réconciliation. Il s'appelle Feu Driss Benzekri. Il était condamné, je ne sais pas à combien d'années, à perpète ou... Avec Driss Basri, qui était son ministre de l'Intérieur et bras droit, il va même faire sortir Abraham Serfati, vous connaissez bien, je pense, de la prison, et le faire exiler en France, sous le prétexte qu'il n'était pas marocain, il était brésilien. Alors là, c'était n'importe quoi. Il fallait trouver quelque chose pour le faire sortir, et puis voilà, parce que la patate était chaude, et donc on se débarrasse comme on peut. Et il était brésilien, il a des attaches en Brésil, allez, bon, on s'est trompé sur son cas, dehors. C'est son fils, Mohamed VI, quand il vient aux affaires, qui va le faire rentrer. Et tout ça, toujours dans la même entreprise, c'est-à-dire faire gagner des points à cette image du Maroc qu'on essaie de vendre, c'est-à-dire le Maroc démocratique, le Maroc ouvert, etc. Il va même, avant de mourir donc en 99, en 98, il va même mettre en place à la primature un certain Youssoufi, Abdelrahman Youssoufi. C'est un ancien opposant qui était aussi condamné à mort dans les années 60 et qui était exilé à Nice en France. C'est quelqu'un de l'USFP, l'Union Socialiste des Forces Populaires. Donc, il va mettre en place un gouvernement d'alternance. Bon, tout ça, c'est bien. C'est bien pour l'image du Maroc. Et donc, tous ceux qui étaient dans l'opposition croyaient justement, on a un changement positif, démocratique, etc. Et il y en a plein qui sont allés dans ce sens-là. Mohamed VI, une fois arrivé donc au palais, il va reprendre la même procédure. De toute façon, il n'avait pas le choix. Il a des conseillers. C'est pas lui qui... Et il va même un peu plus que son père. Il va instaurer ce qu'on appelle l'instance équité et réconciliation. Et c'est là où le bas blesse. C'est de là d'où viennent tous les maux du Maroc. L'instance équité et réconciliation était censée tourner la page du passif des droits de l'homme. Sauf que le problème, c'est que ils n'ont pas pris les précautions qu'il fallait. Ils ont tourné la page des droits de l'homme, enfin du passif des droits de l'homme, des violations des années de plomb, ce qu'on appelait les années de plomb, mais sans avoir lu cette page. Alors comment ? Ils vont procéder de la façon suivante. C'est qu'ils ont proposé des indemnités, enfin des indemnisations plutôt, matérielles, à toutes les victimes qui ont fait une demande, donc un dossier auprès de cette instance. Parce qu'il y en a qui n'ont pas fait. Il y a des victimes, je connais très bien, qui n'ont pas déposé de dossier. Mais toutes les victimes qui ont déposé des dossiers de demande d'indemnisation ont été indemnisées, matériellement. Sauf que le problème, c'est que les victimes demandaient des réparations morales. Et surtout, de juger les responsables des crimes passés. Et c'est là où le bât blesse. C'est là où le bât blesse. Parce que l'UER avait comme consignation, enfin consigne, de ne pas citer les noms des responsables des crimes du passé. Donc c'était une instance où on peut dire tout ce qu'on a sur le cœur, une thérapie de groupe, on va dire, mais sans dépasser une certaine limite. La limite, c'était ça. C'est de ne pas citer les responsables de torture, de centres de torture, les responsables de crimes, etc., etc. Parce que, justement, il ne s'agit pas, dans cette démarche, il ne s'agit pas de punir les responsables de crimes. Il s'agit juste de tourner la page, et c'est pourquoi d'ailleurs ils l'ont appelé équité et réconciliation. C'est même pas, il n'y a même pas les termes vérité et justice. Et pourtant, c'était un débat. C'était un débat dans la société civile marocaine. Dans le mouvement des droits de l'homme, on avait insisté sur ces deux mots. Justice, vérité. On ne peut pas mettre en place une commission sans lui donner ce contenu, c'est-à-dire la recherche de la vérité, la mémoire et la justice. Il va appeler donc à la présidence, enfin à la présidence de cette instance, il a mis Driss Benzekri, qui était dans le mouvement des droits de l'homme et qui était même l'initiateur du Forum Vérité et Justice. C'est l'une des grandes associations au Maroc qui défend les droits de l'homme, à côté, bien sûr, d'autres telles que l'AMDH, l'OMDH, etc. Mais c'était une association pilier dans ce mouvement des droits de l'homme. Ils vont l'appeler pour le mettre à la présidence donc, de cette instance équité réconciliation. Voilà comment on essaie donc, d'acheter des anciens militants pour vendre une approche qui va bien sûr servir les intérêts officiels de l'État marocain. Alors, la réalité, c'est que c'est vrai qu'on a débattu de tout pendant cette période. Ça, c'est l'intérêt de l'instance équité réconciliation. On ne peut pas dire qu'il n'y avait pas d'intérêt. Au contraire, c'était l'occasion de débattre sur justement cette approche et cette démarche de comment tourner la page. Mais en dehors de ça, il n'y avait pas d'autres acquis. Donc, quand je parlais tout à l'heure des espaces de liberté acquis, je visais ça. C'est-à-dire qu'à la télé, on voyait donc les gens invités à parler de leur calvaire, on va dire, de leurs histoires, de leurs expériences, mais avec toujours une limite. À ne pas dépasser. Alors, en parallèle avec ça, il y a le côté social. Et c'est là où on va voir quelques mouvements se développer, tels que, par exemple, le mouvement des diplômés chômeurs. Donc, avant le mouvement 20 février, on a... Et ça date des années, ça fait maintenant au moins 10 ans que les chômeurs diplômés au Maroc, ce sont des diplômés qui ont soit des doctorats, soit en tout cas des diplômes bac plus 5, bac plus 6, etc., et qui ne trouvent pas, donc un emploi au Maroc. Ils ont créé leur association au niveau national, mais qui n'est pas autorisée. Ça fait 10 ans que l'association des nationales des diplômés chômeurs, ça fait 10 ans qu'elle se bat pour avoir un récépissé, elle ne l'a toujours pas. Et ce sont des diplômés chômeurs qui se mobilisent pratiquement tous les dimanches devant le Parlement marocain pour leurs droits et qui se font tabasser par les forces de l'ordre. Pire, il y a parmi les diplômés chômeurs tout un secteur, enfin un secteur, une catégorie, on va appeler ça entre guillemets, ce sont les aveugles ou les diplômés chômeurs qui ont un handicap. Alors cela, c'est encore pire, parce que quand ils manifestent, les pauvres, les aveugles, ils ne voient rien, donc ils ne voient pas les matraques venir, donc ils sont là, ils scandent, et puis... On les corrige comme des malfrats. Alors voilà un mouvement social qui s'est développé il y a longtemps. Il y a un autre mouvement social aussi, ce sont les mal logés, ceux qui n'ont pas de logement, ceux qui, à qui on a promis donc des logements parce qu'il y a eu une politique du gouvernement de combattre en fait les bidonvilles, etc., et donc donner une chance aux habitants d'accéder à un logement digne. Eh ben, on les a fait partir des bidonvilles, mais ils sont restés sans rien. Et donc il y a un mouvement qui s'est créé localement dans les villes, avec des comités de soutien appuyés par les associations de défense des droits de l'homme et les forces vives de la société marocaine, et qui manifestent aussi pratiquement toutes les semaines pour réclamer un toit. Un troisième mouvement social, c'est les coordinations contre la vie chère. Ces coordinations regroupent pratiquement toutes les forces vives au Maroc, démocratiques, notamment celles des droits de l'homme, mais aussi la population locale. Donc on va les trouver partout dans les grandes villes, même dans les villes moyennes. Nous avons des coordinations contre la vie chère et qui réclament donc soit d'augmenter les salaires, soit de diminuer en fait les prix des denrées alimentaires de base. Donc voilà, ce sont des mouvements sociaux qui étaient présents et qui préparaient justement l'avènement de ce mouvement 20 février. Donc vous voyez que le mouvement 20 février, il n'est pas né d'un clic internet, mais elle trouve ses sources dans ces mouvements de lutte que j'ai rappelés ici. Alors, que revendique maintenant le mouvement 20 février ? Alors, certes, le mouvement 20 février, il est porté par les jeunes, par la jeunesse. Mais ces jeunes sont appuyés par tous ces comités dont j'ai parlé tout à l'heure et toutes les forces démocratiques progressistes de la société civile au Maroc. Parce qu'il y a le mouvement 20 février au Maroc, il y a aussi ce qu'on appelle les comités de soutien ou les conseils de soutien à ce mouvement, où on trouve les partis politiques de gauche, les syndicats et les associations de défense des droits de l'homme en particulier. Alors que revendique ce mouvement du 20 février ? Alors c'est simple. D'abord, une constitution démocratique qui émane de la volonté du peuple. Alors j'insiste là-dessus, sur ce point, parce que la Constitution au Maroc, ça fait débat en ce moment, et pour cause. Parce que dans les réponses apportées par l'État marocain, et notamment par le chef de l'État, le roi Mohamed VI, pendant son discours du 9 mars, l'action phare qui a déterminé son discours, c'est la réforme constitutionnelle. Donc il va mettre en place une commission nommée par ses soins qui va avoir en charge de réformer la constitution de 1996 que son père, Hassan II, avait mis en place en 1996. Alors, sauf que dans son discours, il trace bien les cadres. Il met bien les cadres à cette réforme. Alors, c'est quoi le cadre? Et c'est là où le problème se pose. C'est l'article 19 de la Constitution marocaine. Que dit l'article 19 de la Constitution marocaine? Lui, cet article n'a pas changé depuis 62. Et on est à la cinquième révision. L'article 19, c'est lui, en fait, qui détermine tout au Maroc. Il donne tout le pouvoir au roi du Maroc. Il a tous les pouvoirs religieux, parce qu'il y a la question de l'émirat, c'est qu'il est Amir al-Mu'minin, c'est-à-dire le commandeur des croyants. Pouvoir religieux, donc personne, et ça c'est un signe aux islamistes au Maroc, attention, je suis votre commandeur, et personne d'autre. Donc, je gère les affaires religieuses. Ensuite, l'intégrité territoriale. Alors attention, quand je dis l'intégrité territoriale, pour le principe, on peut tous être d'accord pour l'intégrité territoriale d'un pays. Par exemple, là, en ce moment, ce qui se passe en Libye, on brandit l'intégrité territoriale. C'est un principe universel, on va dire, bateau. Sauf qu'au Maroc, quand on va creuser un peu, on va trouver le drame que vit le peuple marocain avec cette histoire d'intégrité territoriale. Depuis 1975, depuis 1975, donc depuis le début du conflit au Sahara, quand on dit intégrité territoriale, c'est que le Sahara est marocain et il ne doit pas y avoir un Marocain qui dit le contraire. Donc on ne parle pas de Ceuta. On ne parle pas de Melilla, on ne parle pas des îles Canaries, etc. Donc suivez bien mon raisonnement, c'est que quand on parle d'intégrité territoriale au Maroc, c'est bien le Sahara qui est au centre de la question. Tous les militants des années 60, 70, qui se réclamaient de la gauche radicale et qui ont payés donc lourd leur militantisme par la prison, et qui sont appelés à présider les instances l'instance équité réconciliation, les commissions nommées par le roi actuellement, ils savent quelque chose, parce qu'ils ont été condamnés pour ça, parce qu'ils avaient dit à un moment donné, l'autodétermination du peuple sahraoui en tant que Marocain. Cette question, donc, je reviens sur l'article 19, je n'ai pas encore fini, c'est que la personne du roi, et même la monarchie, elle est sacrée. C'est-à-dire que personne n'a le droit de dire quoi que ce soit sur la monarchie, que ce soit en mal ou d'ailleurs en bien. Alors pourquoi je dis d'ailleurs en bien? Parce qu'il y avait, un sondage dans un journal marocain, tel quel, je crois, et qui était favorable. Qui était favorable à, je ne sais pas, 80% ou 85% à la famille royale, enfin au roi. Et pourtant, il a été saisi et le directeur a été condamné parce que justement, il a osé mettre le roi en question dans un questionnaire, dans un sondage. Non. Le roi est une personne sacrée. Et donc, personne n'a le droit de dire quoi que ce soit sur la peste. Donc, voilà un peu l'article 19 dans cette constitution qui pose problème et que rejette le mouvement Benferri. C'est pourquoi le mouvement Benferri continue. Il n'a pas faibli depuis le 20 février. La réponse est là. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point que revendique le mouvement 20 février, c'est la démission du gouvernement et la dissolution des deux chambres du Parlement. C'était une revendication avant le discours du 9 mars. Le discours du 9 mars n'a pas parlé de ça. On a toujours le même gouvernement et on a toujours le même Parlement. Donc le mouvement 20 février continue. Puisqu'il ne répond pas à cette question. Donc, première question, je l'ai évoquée, la Constitution. La deuxième, c'est la démission du gouvernement et la dissolution des deux chambres du Parlement. Troisième revendication, c'est la séparation des pouvoirs et la mise en place d'une justice indépendante. Parce que vous le savez très bien, au Maroc, tous les pouvoirs sont dépendant et dépendant d'un seul pouvoir. En fait, pour résumer, tous les pouvoirs sont concentrés dans la main du roi. Il fait le législatif, il fait l'exécutif, il fait le judiciaire. On a une justice qui est aux ordres du ministère de l'Intérieur. Alors là, pour les exemples, on peut passer des heures et des heures sur des exemples. Mais bon, je ne crois pas que c'est le moment. Donc en fait, ce que réclame le mouvement 20 février, c'est un état de droit où les pouvoirs sont séparés et chaque pouvoir fait son boulot. C'est ce qui ne se fait pas au Maroc maintenant. Quatrième revendication, c'est, et ça j'en ai parlé tout à l'heure, c'est le jugement de tous les responsables. Ce n'est pas par vengeance, de tous les responsables du crime du passé et du présent. Et quand on dit les crimes, c'est bien sûr à l'encontre des militants marocains, mais aussi ceux qui sont impliqués dans la corruption, la grande corruption, parce qu'au Maroc, c'est pas la petite corruption, la petite délinquance. Non, 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 on a des gros bonnets de la corruption et ceux qui ont spolié, bien sûr, les richesses du pays. Autre revendication, c'est la mise en place d'une politique sociale qui permet l'intégration dont je vous ai parlé tout à l'heure, des diplômés chômeurs. L'augmentation des salaires, donc la revalorisation déjà du SMIC, et l'accès sans frais aux services publics en les améliorant. Et la dernière revendication, c'est bien sûr la libération de tous les prisonniers politiques, parce qu'il reste encore des prisonniers politiques au Maroc. Et on a des nouveaux maintenant, qui sont liés bien sûr au mouvement du 20 février. Alors, voilà en gros les revendications de ce mouvement. Alors, quelles étaient les réponses ou la réponse des autorités marocaines? Alors, j'en ai cité quelques-unes tout à l'heure quand j'ai parlé du discours du roi, parce qu'il a répondu partiellement à ces revendications. Mais c'est surtout cette tendance à mettre des conseils consultatifs à chaque fois qu'on revendique des choses. On a le fait du prince. Tenez, je nomme une commission, enfin un conseil consultatif, qui va s'occuper, qui va charger de régler le problème. On en a un à l'immigration, c'est-à-dire les citoyens marocains à l'étranger, qui ne sont pas d'ailleurs considérés comme citoyens, sont toujours des sujets, comme ceux de l'intérieur. On a mis en place un conseil qu'on appelle le conseil de la communauté marocaine à l'étranger. Devinez qui le président de ce conseil? Un certain Driss Eliazami. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un ancien militant des droits de l'homme. C'est un ancien secrétaire général de la Fédération internationale des droits de l'homme. Et qui a été condamné, lui aussi, il y a longtemps. Il a été condamné à 30 ans ou non à perpétuité, lui aussi, par le même régime. Il est président de ce CCME. Il est président du Conseil national des droits de l'homme. C'est la dernière version du CCDH, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui a été mis en place par Hassan II. CCDH, Conseil consultatif des droits de l'homme, qui devient maintenant Conseil national des droits de l'homme, depuis le discours du 9 mars. Président Driss Eliazami. Deux conseils, présidés par la même personne. Et je n'ai pas fini. Le Conseil économique et social. Ça, c'est juste après l'annonce du 20 février, le Conseil économique et social mis en place. Et on appelle qui pour siéger dans ce conseil? Driss Eliazami. Et je n'ai pas fini. Il y a la commission qui se charge de la réforme de la Constitution. Driss Eliazami. Ça fait déjà quatre. On a un champion de droits de l'homme qui va résoudre tous les maux et les problèmes des Marocains, qui s'appelle Driss Eliazami. En fait, c'est une carte magique que le pouvoir en place utilise à tout va pour vendre ce Maroc de la première version, rappelez-vous, les deux approches dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc la première approche, Driss Eliazami est là pour régler tous les problèmes des Marocains. Driss Eliazami est connu parce qu'il a une autorité ici, à l'étranger, en France notamment. C'est un ancien militant des droits de l'homme. C'est quelqu'un de très connu au niveau de la Fédération internationale. Donc il y a de l'influence, etc., etc., etc. Ben voilà, mes chers amis, comment on essaye de vendre un Maroc actuellement. Et c'est ça ce que le mouvement 20 février refuse. C'est ça ce que le mouvement 20 février donc dénonce avec force. Et donc, vous allez me poser la question, les perspectives, est-ce que ce mouvement va être appelé à continuer, à durer ou pas? Avec tout ce que je viens de vous dire, et ça c'est mon analyse personnelle, là c'est mon analyse politique. Ça n'engage que moi, ce n'est pas le mouvement 20 février qui vous parle. Le mouvement 20 février, alors, c'est vrai, ça date du 20 février. On ne peut pas dire que c'est un mouvement, parce que quand on dit mouvement, ça veut dire que c'est quelque chose qui a duré, puis on a pris du recul, etc. etc. On ne peut pas dire que c'est un mouvement. C'est quelque chose qui est né le 20 février, mais basé sur des choses très enracinées. Donc, à mon avis, elle mérite quand même le mouvement, le terme mouvement. Mais elle va devoir faire ses preuves. Avec les forces qui existent au Maroc. Alors, quelles sont les forces qui animent ce mouvement, enfin, qui animent ce mouvement, qui soutient ce mouvement, soit de l'intérieur, soit de l'extérieur, et qu'on entend, parce que dans les médias, quand on parle de ce mouvement, généralement, on dit, attention, ce mouvement est manipulé par tel ou tel. Quels sont les deux manipulateurs qu'on cite dans les déclarations? Et d'ailleurs, je vais vous raconter quelque chose, c'est que, on l'a dénoncé, nous, à Paris, on a fait même un rassemblement devant le Quai d'Orsay, c'est parce que l'ambassadeur adjoint à Rabat a invité quelques jeunes... L'ambassadeur de France, oui, à Rabat. Son adjoint a invité quelques jeunes du mouvement 20 février qui font partie de quelques partis politiques, qui sont représentés au Parlement et qui sont au gouvernement. Et il leur a dit, attention, vous vous faites manipuler par la voie démocratique et bienfaisance, justice et bienfaisance, c'est-à-dire l'aide ou l'ihsan. Ce sont deux partis dans le mouvement qui revendiquent la République au Maroc, pour aller vite. Un parti de gauche, la voie démocratique, et un autre parti d'obédience islamiste. Bienfaisance, justice et bienfaisance. Alors voilà le discours qu'on essaie d'inculquer aux jeunes qui sont dans le mouvement, de leur dire, attention, vous avez des extrémistes parmi vous et qui essayent de vous manipuler et de s'accaparer du mouvement. Alors, ces deux partis, certes, ils sont présents. Ils sont présents dans le mouvement. Mais il n'y a pas que. Il y a d'autres. Il y a d'autres partis. Et puis, il y a aussi, et c'est la majorité, la population qui n'est pas encartée, qui n'a pas de parti politique, et qui, elle, veut justement un état de droit où on peut s'exprimer librement, un état où on retrouve la dignité, un état où la justice n'est pas aux ordres des autres ministères, et ainsi de suite. Alors, le poids de ces partis politiques, parce que le mouvement est là, je pense qu'il va durer, parce que les problèmes sont là. On ne peut pas dire que les problèmes sont derrière nous, loin de là. Maintenant, quel est le rôle de ces partis politiques? Moi, je ne suis pas partisan, mais j'ai une lecture politique de ce qui se passe dans mon pays, le Maroc. Je crois qu'ils n'ont pas encore saisi la chance que leur offre le mouvement 20 février pour justement aller au-devant aller à l'essentiel, c'est-à-dire ce qu'ils réclament, comme changement radical. Ils n'ont pas encore saisi cette chance. C'est pourquoi on voit des rassemblements, on voit des manifestations au Maroc pratiquement tous les dimanches. Mais il n'y a pas encore un passage, on va dire, à une radicalisation, entre guillemets, de ce mouvement. On reste sur les revendications telles que je les ai citées tout à l'heure, et que les partis politiques donc s'en accommodent comme ils peuvent. Il n'y a pas encore une force politique qui se dégage pour justement chercher autre chose que ce qu'on a maintenant. Est-ce une tactique de ces partis politiques ou c'est parce que justement ils n'ont pas les capacités, ils n'ont pas les bases pour profiter de ce que leur offre le mouvement 20 février pour justement renverser la tendance. Ça, c'est mon analyse politique. Maintenant, c'est au débat de... Bien, je crois que
peut-être
j'ai...
Peut-être qu'on peut continuer par des questions.
Ouais, j'allais m'arrêter moi aussi, donc bah, c'est bon. Excusez-moi, j'ai pris beaucoup de temps peut-être pour...
François, est-ce que voilà. Tu veux prendre la parole ?